Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Bienvenue à tous pour cette seconde partie d'Appel sur l'actualité. Le débat, c'est vendredi, c'est donc la libre antenne. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez intervenir. Vous êtes les rédacteurs en chef de l'émission. 33 9 693 693 70, appel.actu@rfi.fr. Twitter, la page Facebook de l'émission, tous ces moyens sont à votre disposition. Nous allons sans plus attendre au standard accueillir Mamadou qui est à Dakar. Bonjour Mamadou.
Bonjour, Radio France. Bonjour, les gens. Vous allez bien?
Bienvenue. Mais nous, ça va très bien. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Vous voulez parler de votre maire, le maire de Dakar, Alifa Sall. Il a été entendu une nouvelle fois par le juge hier, confronté au directeur administratif et financier. Je rappelle qu'il est soupçonné d'avoir détourné l'équivalent de 2 700 000 euros d'argent public. Une affaire qui a même été évoquée à l'Assemblée nationale hier avec une chaude ambiance, a priori. Pour vous, Mamadou, Alifa Sall, c'est un complot politique qui est fomenté contre lui?
Tout à fait. En fait, vous savez, dans cette affaire, ce qui est reproché au maire de Dakar, c'est juste de ne pas avoir fourni des justificatifs par rapport à l'utilisation de ce fonds de la caisse d'avance. Et dans ça, donc, il est coupable. S'il n'aura pas apporté aucun élément convaincant, juste en évoquant donc des parties prises, donc là, il est coupable. Mais vous savez, dans cette histoire Le débat qui se pose aujourd'hui, c'est avec acuité, c'est l'indépendance de la justice qui se pose. On a comme l'impression dans notre pays qu'on a une justice avec des bandeaux sur les yeux. Une justice devenue comme une sorte de télécommande, qui est juste là comme un instrument de règlement de compte à chaque fois qu'un gouvernement vient, selon ses objectifs, selon donc les désirs donc, du président. La justice obéit à ses yeux.
Vous voulez dire, Mamadou, que le président actuel sénégalais, Macky Sall, se sert de la justice pour empêcher Khalifa Sall, potentiel concurrent à la présidentielle, de gagner encore des voix et de la popularité?
Effectivement, parce que faut voir que depuis l'avènement du président Macky Sall, malheureusement, on a assisté à beaucoup d'arrestations, à des solutions, à des limogeages d'adversaires potentiels, uniquement motivé dans la majorité des cas pour des raisons politiques. Le paradoxe, c'est que cette réduction des comptes, qui fut un des thèmes phares du candidat Macky Sall lors des élections de 2012, malheureusement, donc, très vite, cette volonté de traduire en acte ce principe de réduction des comptes fut très vite mise au placard, dans la mesure où beaucoup de scandales financiers, des dossiers politico-judiciaires ont entaché le magistrat du président Sall. Souvenez-vous, en 2013, le président Macky Sall lui-même avait déclaré dans Jeune Afrique, lors d'une interview, qu'il y avait beaucoup de dossiers sur lesquels lui-même il avait apposé son coude, c'est-à-dire qu'il avait protégé ses partisans, parce que sinon la justice allait être mise en place. Malheureusement, donc, ce à quoi on a assisté, c'est d'abord donc M. Karim Wade. Aujourd'hui, c'est M. Khalifa Sall. Demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Malheureusement, voilà.
On verra pour demain. On vous remercie d'avoir appelé Mamadou. On va rejoindre Ibrahim qui, lui aussi, est à Dakar. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Nicolas.
Alors Mamadou lui-même le reconnaissait. Il est accusé car il n'a pas apporté de preuves de la bonne utilisation de l'argent public. Ça mérite un procès selon vous, Ibrahim?
Mais c'est tout le paradoxe du Sénégal. C'est là le mot Sénégal insiste. Où les gens ne sont pas, on n'arrive pas à les contourner. Quand c'est selon la tournure du vent, quand ça se trouve de leur côté, bon, c'est ça, et quand ça se trouve, mais il y a un problème qui se pose. Tout gestionnaire de compte est soumis à la reddition des comptes. Mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas gérer des fonds et vous ne justifiez pas.
Surtout quand c'est de l'argent public.
Mais c'est de l'argent public, il reconnaît qu'il a reçu les fonds. Et les fonds ne lui ont pas été remis comme ça. Ça a été remis sous décharge. Il l'a reçu, mais quand il le dépense, il doit amener des justificatifs. C'est tout ce qu'on lui demande.
Je ne vous cache pas qu'on a un peu le même débat en France en ce moment, Ibrahim. Alors quand Mamadou nous dit que le procès, que la justice est instrumentalisée, est-ce que vous pensez également que les partisans de Khalifa Sall peuvent se servir de ce procès pour créer une posture de victime pour Khalifa Sall qui pourrait aussi lui rapporter de la popularité?
Mais justement, c'est parce que Khalifa Sall s'est mis dans le costume, dans le drap d'une victime. Mais c'est ça un peu, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, pour planter un peu le décor, si vous me permettez, il y a le cas Karim Wade. Au moment où il avait, on lui a demandé, Macky Sall était à l'époque président de l'Assemblée nationale, et on lui a demandé de venir rendre compte. Tout le monde était d'accord. Mais quand il a fallu, quand son père a été battu et qu'on l'a repris pour qu'il rende compte, les gens ont commencé à crier, non. Bon, c'est-à-dire, autour de Khalifa Sall, pour revenir, il y a une solidarité confrérique, il y a une solidarité politique et il y a une solidarité d'opinion. Voilà tout le problème. Mais il y a tout ce qu'on lui demande, c'est de nous donner les justificatifs. Moi, je vais vous dire, j'ai un voisin qui était malade. Je l'ai amené à l'hôpital, on lui a adressé tous les documents et il devait bénéficier, parce que c'est un indigent, mais il a amené tous les documents pour qu'on puisse le payer, le soigner. Mais ce sont ces documents qu'on demande à Khalifa Sall. C'est tout. Qu'il ait des omissions politiques, c'est son problème, mais seulement les fonds qu'il a et qu'il les présente et qu'il les dise, voilà comment il a dépensé et comment ça se passe. C'est qu'au Sénégal, on a toujours en train de polémiquer. C'est comme François Fillon, il dit que ses malheurs découlent de François Hollande. Mais c'est simple. Il faut créer. Nicolas Sarkozy aurait dit la même chose, mais il ne l'a pas dit. Mais il faut avoir de la hauteur aussi. Merci. Mais le problème, c'est qu'au Sénégal, il y a beaucoup de postures politiques. Et les gens, c'est selon leur position. Voilà, c'est tout.
Ibrahim, si ça peut vous consoler, François Fillon, hier soir sur France 2, a justement dit que tout ce qui lui est arrivé était téléguidé par François Hollande, en se référant à un livre. Alors, les auteurs ont depuis démenti, mais il y a une véritable passe d'armes également en France. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et nous allons justement rejoindre Martin, qui est à Paris. Bonjour, Martin.
Bonjour.
Alors, c'est une sorte d'écho à ce que nous venons de dire au Sénégal. Vous avez envie de réagir sur François Fillon et les affaires tout autour de ce candidat à la présidentielle.
Exactement. Je suis tout à fait surpris et étonné que ce débat au niveau de la France semble être quelque chose de banalisation par les acteurs politiques. Donc, il s'agit de François Fillon, bien entendu, qui n'a pas pu respecter sa parole et qui s'accroche à être candidat et contre vents et marées et qui estime être le seul capable à défier la justice et à défier la presse et à défier les électeurs. À défier d'ailleurs le vertu de la morale au sommet de l'État.
Alors après, Martin, je pourrais vous dire, me faire l'avocat de François Fillon et vous dire que pour l'instant, certes, il est mis en examen, mais qu'il y a toujours la présomption d'innocence.
Oui, mais c'est tout à fait ce que je condamne. La présomption d'innocence ne donne pas la suprématie à tout faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de délai pour mieux faire. François Fillon renie à sa propre parole. Y a-t-il un rapport avec la présomption d'innocence et le respect de sa parole parce qu'il aspire à la magistrature suprême?
C'est vrai qu'il a déclaré, Martin, juste le rappeler pour les éditeurs, que si jamais il était mis en examen, il ne continuerait pas sa campagne présidentielle. Finalement, il a changé d'avis parce qu'il a dit qu'il était l'unique recours au sein de la droite et du centre, hein, pour résumer.
Ça, c'est ce qui est étonnant parce qu'il n'est pas la seule personnalité qui puisse incarner le valeur de la République. Il était lui-même au primaire avec les autres concurrents. Il a dû donner la leçon morale à l'EJP en disant ce que vous imaginez un seul instant, le général de Gaulle mis en examen.
Voilà.
Maintenant, c'est lui qui est dans la fenêtre de la justice. C'est vrai, il y a la présomption d'innocence. Sauf que lui, il est candidat à la présidentielle. Et les jeunes ont besoin de voir quel est le modèle des personnalités politiques. Pas seulement les jeunes, pas seulement les Français, mais à travers le monde, la France a une image tout à fait considérable sur le plan de la démocratie. Les jeunes États, en Afrique par exemple ou ailleurs, quelles leçons tireront-ils? Quelle image auront-ils d'un chef d'État français qui renie à sa parole et qui tient mordicus contre vents et marées à pouvoir se maintenir à la candidature, bien que les accusations sont en quelque sorte un peu fuyants par rapport à...
Et il y a des accusations... Il y a des accusations du même acabit contre celui qui était jusqu'à il y a encore cette semaine ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, dans le camp socialiste. Lui est accusé d'avoir donné des emplois à ses enfants et lui a démissionné en moins de 24 heures. Martin, il y a Massagona qui vous répond sur Facebook. Elle nous dit « Je passe ma journée avec RFI, je m'endors avec RFI, je me réveille avec RFI. » Déjà, on la remercie. « Mais je suis finalement déçu du traitement réservé à Fillon par la plupart de ses journalistes. Il est très net que leur choix est fait pour Macron et contre Fillon, et à force vous rendez Fillon séduisant par son courage, on a plus envie de le supporter même qu'au départ. Il y a d'autres auditeurs qui nous disent, comme Thiem Thor, mais vraiment, pourquoi cette cruauté vis-à-vis de François Fillon? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre, Martin, très rapidement?
Oui, mais moi, j'ai dit, c'est ça, ce sont des faux fuyants. De quel droit, alors, cet auditeur se permet de pouvoir condamner la presse? La presse n'a pas dit à François Fillon de déclarer qu'il respecterait ou qu'il réunirait sa parole. La presse ne fait qu'informer l'opinion de tout ce qui se fait. Alors, s'il instrumentalise la presse, et hier, par exemple, à l'émission, il a dû intervenir à l'écrivain pour dire de quel droit l'écrivain était en train de...
Christine Angot.
Voilà. Alors, mais maintenant, lui-même, François Fillon, il a cité François Hollande. Et d'ailleurs, j'ai dit, ça c'est une distraction, en fait, à cet auditeur-là. Aujourd'hui, François Fillon, moi, je lui dis, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il peut, maintenant, renoncer à la présidentielle. C'est ou celles qui le soutiennent, mordicus contre cette erreur politique, sont en train de ternir l'image de la moralité et même de vertu. Quand il sera président, quel type de président sera-t-il? Alors, il avait crié au début de la campagne comme quoi on était en train de les distraire vers les problèmes réels des Français. Mais hier, il est rentré dans la même logique, hein, en pointant François Hollande et l'entourage de l'Élysée qui aurait des cabinets noirs. Mais là, c'est pas la campagne électorale. Nous disons, vous avez dit, si jamais vous êtes mis en examen, vous vous retirerez de la course. Un point barre. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? D'ailleurs, avec ridicule, je suis hier qui disait qu'il a rendu
des costumes offerts après les avoir portés, c'est vrai.
Les costumes qu'il a portés. Et pourquoi il n'a pas rendu l'argent, tout ce qu'il a versé à ses enfants? Alors, pourquoi des mesures des
points? Là, ce sont ses enfants qui lui ont rendu l'argent, finalement. Martin, merci beaucoup pour cette intervention. Je suis obligé de vous couper quand on a encore beaucoup de monde au standard. On a Amos qui est en région parisienne. Bonjour, Amos.
Oui, bonjour Nicolas.
Alors vous vous intéressez également à cette présidentielle française, mais alors chez les socialistes, et vous vous inquiétez, en tout cas vous êtes surpris parce que Benoît Hamon ne parvient pas à réunir son propre camp. Hein.
Ben là moi je vous avoue que j'ai toujours voté à gauche et je suis particulièrement content de ce qui arrive à Benoît Hamon parce que durant toute la mandature de François Hollande, il a... C'est curieux, je crois que c'est la première fois en France qu'on voit un parti au pouvoir avoir la première opposition à son sein. C'est la toute première fois. Voilà des gens qui ont mis les bâtons dans les roues de la mandature de François Hollande, mais qui, je ne sais pas s'il savait qu'il allait être lui-même candidat un jour, et qui aujourd'hui sollicite les anciens qu'il a combattu hier pour qu'ils soient élus.
Amos, il y a eu une primaire socialiste et les électeurs socialistes, en tout cas les sympathisants, ceux qui se sont rendus à cette primaire, ont désigné et très largement Benoît Hamon comme candidat des socialistes. Il a donc tout de même cette légitimité.
Oui, mais François Hollande aussi a été élu par les socialistes et en plus par les Français. Donc, il est arrivé au pouvoir, c'est vrai, il a été élu sur un programme, mais la réalité du pouvoir ayant fait qu'il constate effectivement les problèmes, en fait, qu'il vienne découvrir les problèmes dans lesquels était empêtrée la France, il était obligé de changer de politique. Mais qui étaient les mieux placés pour pouvoir comprendre François Hollande? C'était les socialistes. Mais eux, ils ont jeté en pâture la mandature et le président Hollande aux yeux des Français. Et ça a été un spectacle, mais vraiment désolant. Là, aujourd'hui, et vous voyez, après les primaires, il est allé d'abord vers qui? Vers Mélenchon. Au lieu d'abord de chercher à rassembler son propre parti, il est d'abord allé vers Mélenchon. Mais aujourd'hui, on le lui rend bien. Et je suis particulièrement content. Et je vous dis, j'avoue que j'ai toujours voté à gauche. Mais cette fois-ci, je ne pense pas. Je ne le pense vraiment pas.
Vous estimez donc logique ce choix de Jean-Yves Le Drian, là, qui annonçait ce matin, Jean-Yves Le Drian, très populaire, sinon le plus populaire des ministres socialistes, le ministre de la Défense de François Hollande. Jean-Yves Le Drian qui officialise ce matin son ralliement à Emmanuel Macron.
Mais bien sûr, mais nous tous. Nous tous qui avons mal vécu cette opposition au sein de cette opposition des frondeurs, mais nous tous, nous allons nous mettre derrière Macron. Et ça, c'est clair. Et je vous dis, ce qui s'est passé durant la mandature de François, je ne sais pas si ça s'est déjà passé dans le...
Au sein du parti politique français, on en a déjà eu beaucoup. C'est vrai que là, on peut rappeler aussi que Benoît Hamon était un ministre de François Hollande.
Voilà, c'est qu'il y a trop, c'est les propres ministres qui se levaient tous les jours, tous les matins, tous les jours pour critiquer le président. Mais c'était invivable. Mais là, aujourd'hui, mais quand même, soyons honnêtes, ça allait être très difficile, vraiment très difficile, que ces ministres se mettent derrière Hamon. Ça allait être difficile.
Il y en a quand même qui le font, hein, Hamon, tout de même.
Il y en a qui le font, mais c'est des moindres. En fait, ils ne pèsent pas lourd.
Très bien.
Vous voyez, tous les poids lourds sont de l'autre côté.
On suivra ça, bien sûr, tout le long de l'antenne. Hamon, merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, Benoît Hamon doit se rendre dans les jours qui viennent en Afrique pour une tournée. On va accueillir Youba qui est à Bamako. Bonjour Youba.
Bonjour Nicolas.
Bon, alors nous, on a débattu hier de ces candidats à la présidentielle française qui viennent en Afrique. Marine Le Pen était cette semaine au Tchad. Vous comprenez que les principaux candidats fassent le déplacement sur le continent ?
Ben, si je comprends que les principaux candidats fassent le déplacement en Afrique, je ne comprends pas le sens qu'ils donnent à ces déplacements-là. Parce que venir en Afrique et rencontrer un président africain, un président de l'Assemblée nationale, n'est pas venir en Afrique. Pour moi, il y a une différence entre une telle visite et la rencontre avec de vrais Africains, une société civile africaine qui a quelque chose à dire. Parce que là, par exemple, la visite de Marine Le Pen hier, elle ne risquait rien. On ne pouvait pas la contredire.
On ne pouvait pas la contredire. Après, Youba, on a des auditeurs qui nous disent en même temps, on n'est pas concernés. Enfin, pourquoi ces candidats viendraient voir les Africains ? Nous, on ne va pas voter pour la présidentielle française.
J'allais en venir parce que j'ai écouté hier un intervenant tchadien qui se serait même senti honoré de la visite de Marine Le Pen. J'ai dit qu'il ne faut pas insulter l'histoire. Quel honneur peut-on avoir d'accueillir sur son sol quelqu'un qui porte un programme aussi négatif, c'est l'égalité par exemple des chances des enfants à accéder à l'éducation. C'est pas possible. Il faudrait qu'on apprenne à nous respecter. Il y a 4 ans ou 5 ans, en 2010, Nicolas Sarkozy venait nous expliquer en Afrique ici que on n'était pas assez rentré dans l'histoire. Et après, il ne faut pas s'étonner que ce qu'il a fait en Libye et avec les conséquences qu'il y a au Mali, soit fait de cette façon-là. C'est dans une ignorance totale de l'Afrique. Ils viennent en Afrique, ils ne viennent pas pour nous, ils viennent pour montrer à leur électorat en Europe, voilà, je peux voyager. Marine Le Pen pour dire, voici, je suis en Afrique. Elle n'a pas été invitée. Elle a fait la même chose, le même déplacement en Iran, pour dire qu'elle ne va pas porter le voile.
Elle s'offre, elle s'offre une stature internationale, c'est aussi le sens de beaucoup de commentaires sur Facebook. Merci beaucoup Youba de nous avoir appelé de Bamako. Il nous reste un peu plus d'une minute, alors on va vite accueillir Ousmane qui est à Nouakchott. Bonjour Ousmane.
Bonjour Nicolas.
Vous voulez réagir sur le changement constitutionnel qui a du mal à se faire en Mauritanie ?
Oui, d'abord ces amendements qui ont été présentés ne font pas l'unanimité du peuple mauritanien parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Nous avons un problème sécuritaire, un problème alimentaire, problème de l'unité nationale et de problème social. Donc la majorité du peuple mauritanien n'est pas d'accord avec ces amendements. Et ces amendements qui ont été présentés à l'Assemblée nationale et puis au Sénat ont été rejetés par le Sénat. Et aujourd'hui, le président de la République essaye de faire l'amalgame entre l'article 38 et l'article 99 qui montre quand la Constitution a été rejetée quand une loi d'amendement a été rejetée par le Sénat, qu'elle ne peut pas être présentée pour un référendum.
Et pourtant, c'est ce que le président Ould Abdelaziz veut tenter. Il veut passer directement par la volonté populaire. Merci beaucoup, Ousmane, de nous avoir appelé. Désolé pour ceux qui attendaient au standard, notamment Idriss. On aura bien sûr l'occasion de les faire passer à l'antenne très prochainement. Merci d'avoir été là toute cette semaine. Passez un excellent week-end.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Money, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse.
Bonjour Claire Edon.
Bonjour.